Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne podcast de Cessia. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un sujet passionnant et essentiel, l'accessibilité.
VoiceOver activé.
Si vous aimez plonger dans des discussions enrichissantes et explorer de nouvelles perspectives, vous êtes au bon endroit. Laissez-nous vos impressions en commentaire et embarquez avec nous pour cette aventure captivante.
Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers d'un appareil technologique conçu pour renforcer l'autonomie, l'Activator. Pour cette exploration, on s'appuie sur les descriptions de Cessia, qui est un distributeur spécialisé, et puis aussi du fabricant, Helptech, via Medical Expo. Notre mission, eh bien, décrypter ce qui rend cet appareil un peu particulier et voir comment il pourrait s'intégrer dans le quotidien des personnes aveugles ou malvoyantes. Ce qui pique tout de suite la curiosité, je trouve, c'est cette mention d'un clavier hybride et aussi d'une station d'accueil Smart Dock pour l'iPhone. Alors, voyons ça de plus près.
Oui, bonjour. Effectivement, l'Activator, il s'inscrit, on peut dire, dans une tendance de fond. Améliorer l'autonomie, l'inclusion via la technologie. C'est développé par Helptech et c'est présenté comme une solution mobile, assez polyvalente, pensée pour accompagner l'utilisateur dans différents contextes, que ce soit l'école, le travail ou même à la maison. Il cherche un peu à marier, disons, des éléments éprouvés, des afficheurs braille, avec des innovations plus modernes, orientées vers l'interaction.
D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet. Le cœur de l'appareil, l'affichage et la saisie. C'est donc un afficheur braille de 40 cellules. Les sources disent que ces cellules sont concaves. Qu'est-ce que ça apporte concrètement pour l'utilisateur, cette forme concave ?
Alors, l'idée des cellules concaves, c'est principalement le confort de lecture tactile. La légère courbure, elle est censée mieux épouser la forme du doigt. Donc, ça pourrait réduire la fatigue si on lit longtemps et peut-être potentiellement améliorer la discrimination des points braille. C'est vraiment une attention portée à l'ergonomie fine, quoi. C'est essentiel pour un appareil comme ça, destiné à un usage assez intensif.
D'accord, c'est plus clair. Et avec ces cellules, on trouve les routages curseurs. Pour ceux qui nous écoutent et qui découvriraient les afficheurs braille, un petit rappel rapide de leur fonction. Pourquoi c'est important ?
Absolument. Les routages curseurs, ce sont ces petits boutons, souvent situés juste au-dessus ou en dessous de chaque cellule braille. Leur fonction principale, c'est de pouvoir déplacer, hop, instantanément le curseur d'édition ou le focus à l'endroit précis du caractère affiché sur cette cellule. C'est fondamental pour éditer du texte, naviguer dans des menus, activer des liens. Ça rend l'interaction beaucoup, beaucoup plus rapide, plus intuitive, plutôt que d'utiliser juste des commandes de navigation séquentielles, vous voyez. C'est un standard, oui, mais un standard indispensable.
Merci pour la précision. Mais l'élément qui semble vraiment sortir du lot, c'est ce fameux clavier pliable 2-en-1. L'idée, ce serait de pouvoir basculer comme ça d'un simple geste entre un clavier braille classique, type Perkins, et un clavier AZERTY standard.
C'est exactement ça. Et c'est là l'une des propositions, on va dire, fortes de l'Activator. Ce concept de clavier hybride, il est d'ailleurs décrit comme en instance de brevet. Ça reconnaît une réalité importante. Les besoins, les préférences pour la saisie, ça peut varier énormément. Le braille Perkins, c'est une compétence clé pour beaucoup. Mais l'AZERTY, ça peut être plus rapide pour certaines tâches, plus adapté pour écrire longtemps, ou tout simplement plus pratique si on interagit avec des personnes voyantes ou si on collabore.
Oui, on imagine bien le scénario, taper un email vite fait en AZERTY, puis hop, on passe en Perkins pour prendre des notes plus perso. Mais un mécanisme qui se plie comme ça, est-ce que ça ne soulève pas des questions de durabilité sur le long terme ?
C'est une question légitime pour tout appareil avec de la mécanique. Alors, les descriptions de Helptech, elles mettent en avant une fabrication en aluminium de haute qualité, disent-ils, et une conception très fine. Le clavier ferait seulement 8 mm d'épaisseur une fois replié sur l'afficheur. Ça suggère quand même une recherche de robustesse, de précision dans le mécanisme. Bon, sans un test sur la durée, c'est difficile d'être catégorique, c'est sûr. Mais le choix des matériaux, l'ingénierie, ça semble vouloir rassurer sur ce point.
D'accord. Les sources donnent aussi une idée de l'encombrement. Plié, il ferait la largeur d'un clavier compact, à peu près. Mais il s'étendrait pas mal en profondeur une fois l'AZERTY déployé. Et le poids total, avec la Smart Dock, ça dépasse un peu le kilo. Bon, ça reste transportable, mais c'est pas non plus une plume.
Effectivement, 970 grammes pour l'Activator seul et 100 grammes pour la Smart Dock. On arrive à 1070 grammes. C'est comparable à certains petits ultra-portables, oui. Le compromis, il semble être fait en faveur de la fonctionnalité. 40 cellules, un clavier hybride qui se veut robuste, plutôt que la légèreté absolue.
Parlons justement de cette Smart Dock. C'est présenté comme une station d'accueil magnétique pour l'iPhone. L'argument principal mis en avant par Cessia, c'est la connexion physique via un port Lightning. Ça garantirait la stabilité. Mais au-delà de ça, c'est quoi la vision derrière cet accessoire Bumel? Pourquoi centraliser la charge, la connexion physique et même un port USB-A via l'iPhone?
Ah, la Smart Dock, oui. Ça incarne vraiment une tentative de créer un écosystème plus intégré et surtout plus fiable. L'idée, c'est d'aller au-delà du simple appairage Bluetooth entre l'afficheur et le smartphone, qui peut parfois avoir ses petits caprices. En offrant une connexion physique, on cherche à éliminer les aléas potentiels, la latence du Bluetooth. Ça peut être crucial pour naviguer avec VoiceOver de manière fluide, par exemple. Et puis, centraliser la charge, ça simplifie la gestion des câbles. On branche un seul truc. Et ajouter un port USB-A géré via l'iPhone, ça transforme l'ensemble en une sorte de mini-station de travail mobile, quoi. Accès à des clés USB, connexion d'autres périphériques. C'est vraiment une approche matérielle pour fluidifier l'interaction entre, disons, l'assistive tech spécialisée et le smartphone grand public.
C'est une vision intéressante, cette intégration. Mais est-ce que ça ne crée pas aussi une dépendance assez forte vis-à-vis d'un accessoire spécifique ?
Qui est potentiellement coûteux et qui lie l'utilisateur à l'écosystème iPhone, non ?
Ah bah oui, c'est le revers de la médaille de toute solution intégrée et propriétaire, on peut dire. Il y a effectivement un compromis. On gagne en stabilité, en fonctionnalité intégrée, c'est vrai. Mais on perd en universalité. Et on risque de s'enfermer un peu dans un écosystème. C'est un calcul que chaque utilisateur potentiel devra faire, selon ses besoins, son équipement actuel.
Bien sûr. Et l'activateur ne mise pas tout sur la Smart Dock, heureusement. Il conserve la connectivité Bluetooth. Les sources mentionnent l'utilisation du protocole HID moderne. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'utilisateur, ce moderne ? Alors, HID, ça veut dire Human Interface Device. C'est le protocole standard qui permet aux claviers, souris et aussi aux afficheurs braille de communiquer avec les ordi ou les smartphones. L'adjectif moderne ici, ça fait probablement référence aux versions plus récentes du standard Bluetooth et du profil HID, qui offre en général des avantages comme une reconnexion plus rapide aux appareils déjà connus, une meilleure gestion de l'énergie et une latence potentiellement réduite. C'est un gage de performance, de fiabilité pour la connexion sans fil, en principe.
Et l'appareil peut gérer jusqu'à 3 connexions Bluetooth en même temps. Si on ajoute la connexion USB-C de l'activateur lui-même et la connexion Smart Dock, ça fait potentiellement 5 appareils connectables. Comment on passe de l'un à l'autre, concrètement ?
Oui, bonne question. La source Cessia est assez claire là-dessus. Il y aurait une touche dédiée sur l'activator. Elle permettrait de basculer entre les différentes connexions actives, donc les 3 Bluetooth, l'USB et la Smart Dock. C'est essentiel, ça. Parce que sans un moyen simple et rapide de switcher, cette multiconnectivité, elle perdrait beaucoup de son intérêt pratique au quotidien. Pour gérer, par exemple, un ordi pro, un smartphone perso, une tablette.
D'accord. Abordons maintenant les fonctionnalités logicielles, l'intelligence embarquée. L'appareil intègre une conversion automatique, bidirectionnelle, entre le braille abrégé et intégral, pour le français, l'anglais et l'allemand. C'est désigné par l'acronyme RTFC. Une explication simple de traduction sténo et inversée dans ce contexte.
Bien sûr. Alors, sténo, ça fait référence ici au braille abrégé ou contracté. Celui qui utilise des symboles courts pour des mots fréquents, des groupes de lettres. Un peu comme la sténo, oui. La traduction sténo, ça veut dire que l'appareil peut convertir du texte intégral en braille abrégé. Et la traduction inversée ou décontraction, ça fait l'inverse. Ça convertit le braille abrégé saisi par l'utilisateur en texte intégral, pour que ce soit compréhensible par l'appareil connecté ou lu par d'autres. Avoir cette fonction intégrée à l'activateur, le RTFC, donc Real-Time Formatting and Conversion, ça le rend moins dépendant du lecteur d'écran, comme VoiceOver, pour cette tâche précise. Ça peut être utile si on travaille avec plusieurs langues ou si on veut être sûr d'avoir une conversion cohérente.
Un autre élément de confort tactile.
Exactement. L'absence de détails sur cette ATC, ça laisse un peu planer le doute sur sa fonction précise. Automatique toggle, peut-être ? On ne sait pas trop. Par contre, oui, le réglage de la fermeté des points braille, c'est un ajout appréciable. La perception tactile, ça peut varier d'une personne à l'autre.
Autre fonction logicielle mise en avant, un menu rapide personnalisable. L'idée, ce serait d'accéder directement depuis l'activateur à ses applications iOS favorites. Et l'appareil embarque 32 Go de stockage interne. Quels avantages pratiques vous voyez à ces fonctions ?
Le menu rapide personnalisable, ça vise clairement à optimiser le flux de travail, l'efficacité. Plutôt que de devoir naviguer dans l'interface de l'iPhone via VoiceOver pour lancer une appli qu'on utilise tout le temps, l'utilisateur pourrait le faire avec une commande directe sur l'Activator. C'est un gain de temps, d'efficacité, c'est évident. Quant au stockage interne de 32 Go, ça ouvre la possibilité de travailler de manière autonome, sans être constamment connecté. On peut imaginer y stocker des documents, des livres électroniques, prendre des notes directement sur l'appareil. Ça renforce son côté outil de productivité nomade.
Et pour compléter cet écosystème logiciel, il y a une application compagnon, gratuite, HelpTech Plus, sur l'App Store. Une de ses fonctions semble particulièrement intéressante, visualiser en temps réel, sur l'écran de l'iPhone, ce qui est affiché en braille, avec même une indication de la position du doigt de l'utilisateur. Quel impact ça peut avoir, ça, notamment dans un contexte d'apprentissage ou de support?
Ah oui, cette fonction de moniteur braille, c'est potentiellement très puissant, sur le plan pédagogique et pour l'assistance aussi. Imaginez un enseignant, un formateur qui travaille avec un apprenant braille. Pouvoir voir exactement ce que l'élève lit et où il pose le doigt, sans avoir à se pencher par-dessus son épaule. Ça facilite énormément l'accompagnement, la correction. Et ça peut aussi être très utile pour du dépannage à distance. Ou simplement pour qu'un proche aidant puisse suivre ce que fait l'utilisateur. C'est un vrai plus.
L'application permettrait aussi le transfert de fichiers, le partage de presse-papier et la prise de notes vocales enregistrées directement sur l'Activator. Comment cette dernière fonction s'intègre-t-elle ?
La prise de notes vocales, ça ajoute une modalité d'entrée supplémentaire. Ça offre plus de flexibilité, en fait. Selon la situation, le bruit ambiant, la rapidité qu'on veut, la nature de l'info à saisir, l'utilisateur peut choisir taper en braille Perkins, taper en AZERTY ou bien dicter une note rapide via l'appli, qui sera stockée sur l'Activator. C'est une approche multimodale qui reconnaît que la saisie de texte, c'est pas la seule façon d'enregistrer de l'information. L'application est décrite comme ayant une interface simple, ce qui est important aussi pour l'accessibilité.
Passons aux aspects plus pratiques. L'autonomie annoncée, environ 30 heures. C'est plutôt confortable pour un usage mobile, non ?
Oui, 30 heures, c'est une autonomie solide. Ça devrait permettre plusieurs jours d'utilisation modérée ou une très longue journée de travail intensif sans avoir besoin de recharger. C'est appréciable en déplacement, c'est sûr.
Sur le site du distributeur français, Cessia, l'appareil est disponible sur commande, délai, point 15 jours. Et le prix indiqué est de 5 990 euros. Ouch, c'est un sacré investissement. Est-ce que ce prix vous semble justifié au vu des caractéristiques qu'on a discutées ?
Oui, près de 6 000 euros, c'est indéniablement un positionnement haut de gamme. Même dans le domaine des aides techniques, qui sont souvent coûteuses, on le sait. Ce prix, il reflète probablement plusieurs facteurs. La complexité matérielle déjà, les 40 cellules braille de qualité, le mécanisme du clavier hybride pliable, la Smart Dock. Ensuite, les coûts de R&D pour les innovations matérielles et logicielles, le RTFC, l'intégration iOS poussée. Et peut-être aussi le volume de production qui est plus faible que pour des appareils grand public. Par contre, la présence d'une garantie de 3 ans, c'est supérieur à la norme légale. C'est un plus non négligeable.
Cessia propose aussi une offre de reprise d'anciens appareils braille. Ça va de 400 euros à 1100 euros, selon le modèle repris, pour l'achat d'un équivalent neuf. C'est bon à savoir.
Effectivement, cette offre de reprise et la garantie étendue, ce sont des éléments commerciaux qui peuvent rendre l'investissement initial un peu plus accessible, ou plus sécurisant pour ceux qui ont déjà un équipement vieillissant. Et les manuels en français, complets et rapides, sont dispo en téléchargement. C'est une bonne chose aussi pour la prise en main.
Alors, si on devait synthétiser un peu les points saillants de cet Activator, après cette exploration...
L'Activator, il se présente vraiment comme un appareil qui cherche à maximiser la flexibilité et l'intégration. Flexibilité d'entrée, avec ce clavier hybride assez novateur, intégration poussée avec l'écosystème iPhone via la connexion physique et les fonctions de la Smart Dock, connectivité étendue pour gérer plusieurs appareils en même temps et un support logiciel via l'application Compagnon qui ajoute des fonctions de partage, de visualisation, de prise de notes.
Et concrètement, qu'est-ce que ça implique sur l'évolution et technologie d'assistance, ce genre d'appareil ?
Je pense que ça illustre bien une tendance vers des systèmes de plus en plus intégrés. On ne voit plus seulement des périphériques passifs, quoi, mais des outils actifs qui essayent de fusionner le meilleur de la technologie spécialisée, le braille, l'ergonomie tactile pensée pour les non-voyants, avec la puissance et l'omniprésence des plateformes grand public. Ici, l'iPhone et iOS. L'objectif affiché est clair. Augmenter l'autonomie, l'efficacité, l'accès à l'information numérique, dans un monde de plus en plus connecté. C'est une approche assez ambitieuse qui combine matériel dédié et synergie logicielle.
Et cette approche hybride, combiner un matériel spécialisé comme l'activator avec un smartphone via un accessoire comme la Smart Dock, ça soulève une question pour l'avenir, non ? Est-ce qu'on va assister à une intégration encore plus profonde où les fonctions d'accessibilité avancée deviendront de plus en plus natives aux appareils de tous les jours, ce qui rendrait peut-être ces dispositifs dédiés moins nécessaires ? Ou bien est-ce que cette complémentarité entre matériel spécialisé et plateforme généraliste a encore de beaux jours devant elle pour répondre à des besoins très spécifiques ? Voilà une piste de réflexion intéressante, je trouve, sur la trajectoire de l'accessibilité numérique.
Merci infiniment à tous nos abonnés d'avoir écouté le podcast de Cessia, le podcast de l'accessibilité. Nous sommes ravis de partager ces moments avec vous et avons hâte de vous retrouver pour un nouveau podcast. Vos idées et suggestions nous inspirent, alors n'hésitez pas à nous les partager. À très bientôt et prenez soin de vous.